Donc, la saison des camps qui commence officiellement ce matin, en fait, aujourd'hui après-midi, hein? Et je suis content d'être avec vous. Donc, comme on m'a demandé d'introduire toute ma gang et de m'introduire, mon nom, c'est Marc-Olivier Martin. Mon nom de camp, c'est Mammouth. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais je suis content d'être avec vous. Je suis venu avec toute ma famille. Mon épouse, Sarah, qui a dit hello tantôt. J'ai aussi ma fille Ali Rose et mon garçon Isaac qui sont cachés parce que c'est ça. Et mon grand Caleb, lui, il est resté avec la gang du camp. Il est allé à Rouyn-Noranda. Mais on est vraiment content d'être avec vous ici au camp, à Notre-Dame-du-Nord et tout ça. Content de faire un petit retour, une belle visite. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner dans Jean 17. On est dans la prière de Jésus ensemble ce matin, puis... ce matin, on va prendre un temps pour regarder ensemble pourquoi le croyant doit se séparer du monde tout en restant dans le monde. Pourquoi Dieu a amené cette espèce de combat constant pour le croyant et c'est quoi les impacts positifs et les défis qui peuvent venir à être un chrétien dans le monde? Comment est-ce que la façon qu'on va travailler pour rester proche du Seigneur devient un témoignage profond de son amour, sa grâce, sa personne. Et pour ceux qui me connaissent, moi, j'aime ancrer les choses dans des passages. Donc, ce matin, on va faire ce qu'on appelle un petit peu ensemble un sword drill en anglais. Donc, on va prendre l'épée de la parole de Dieu, puis on va la manier, puis on va se promener dans les Écritures en ancrant principalement, on va commencer par l'Ancien Testament pour qu'on comprenne comment Dieu a ancré cette réalité-là d'être mis à part, de faire des efforts en tant que chrétien, qu'une fois qu'on a rencontré Dieu, on va changer, ça va changer jusqu'à notre façon de penser, jusqu'à notre façon de voir le monde, et on va pouvoir ancrer ça dans les enseignements de l'Ancien Testament pour ensuite voir que Paul nous appelle exactement à la même chose, mais que maintenant on est habité par l'Esprit-Saint, on est équipé, on est encouragé. Et là, on peut vraiment grandir ensemble en Église pour pouvoir vraiment être un témoignage fidèle et comment ça devient un témoignage aussi, un appel et ça devient un encouragement les uns les autres qu'on peut vivre en communion ensemble. Tout le monde me suit? Êtes-vous prêts? On va prier avant de se lancer et de lire notre premier texte. Donc, Seigneur Jésus, toi, le seul vrai Dieu, toi, Seigneur, qui as trouvé bon de nous donner ta parole qui est immuable, qui ne change pas et qu'à travers les générations, Seigneur, tu as touché des cœurs, tu as montré la réalité de ce qui se passe à l'intérieur. Seigneur, tu nous as tous et chacun touchés, je l'espère, par ta parole. Seigneur, tu ancres en nous des vérités, des réalités, et tu veux que chacun d'entre nous on puisse vraiment avoir cette proximité avec toi. Donc ce matin, parle-nous encore par ta parole, comme tu le fais si bien. Que ce soit toi qui parles, Seigneur, à travers les choses que tu as mises sur mon cœur, que les paroles, ta parole vraiment soit glorifiée, mise de l'avant, Seigneur, afin que ce qu'on en ressort soit vraiment de toi. Que tu puisses transformer nos cœurs, que tu puisses nous aider à prendre les pas de foi qui vont peut-être être à prendre. Et Seigneur, que tu puisses nous aider à faire un ménage et à voir, Seigneur, comment tu appelles chacun d'entre nous à nous identifier profondément à toi, afin d'être pleinement certain de ton appel sur nos vies, de notre salut et à quel point tu es bon. Seigneur Jésus, ce matin, parle afin que ton peuple écoute et que ton nom soit béni. Et ta parole, Seigneur, bénie. Amen. Donc, ce matin, petite introduction simple. J'aimerais vous amener dans Jean, au chapitre 17, qui est un peu la racine de ce qu'on va regarder ensemble. Si vous tournez dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, et principalement le verset 15, qui va nous intéresser ce matin, mais on va commencer au verset 14. Même, je vais tricher, je vais aller au verset 13. Bon, vous savez, plus on lit la parole, plus le Seigneur va nous parler. C'est un peu ce que je veux faire ensemble ce matin. Donc, Jean 17, on est dans la prière de Jésus. Jean 17, c'est la dernière prière qu'on a qui est écrite, que Jésus a dit, que Jean nous rappelle. Et là, on a vraiment le cœur de Jésus juste avant de partir. Le chapitre d'après, Judas arrive et il vient trahir Jésus. On est dans le cœur. Jésus parle de ses tripes, de ses émotions. Il est en communion avec le Père profonde. Et là, il parle au Père et il dit au Père, « Maintenant, je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Donc, vous voyez comment, dans ces derniers moments qu'on a de prière avec le Père qui sont écrites, Jésus amène cette réalité-là de dire, « J'envoie les chrétiens, je leur donne ta parole. » La parole que Dieu donne, elle est, et Paul l'écrit dans l'Épître aux Romains, c'est comme une animosité, c'est à l'opposé de ce que le monde veut. C'est l'ultime réalité, puis on est appelé en tant que chrétien à s'accrocher à cette réalité-là qui est la parole de Dieu et la vérité. Et Jésus n'est pas dupe. Il sait qu'en nous envoyant et en nous préparant, en nous donnant sa vérité, il sait qu'on devient dans une situation difficile. Êtes-vous d'accord? Est-ce que c'est facile d'être chrétien? C'est pas évident, hein? Mais pourtant, chacun d'entre nous qui connaissons l'Éternel, on peut témoigner profondément comment Dieu vaut la peine. Right? Ça vaut la peine de suivre Dieu. Dans les moments de détresse, il est là. Dans les moments de joie, il est là. Dans les moments où on est complètement tiraillé à gauche et à droite, il est là. Et Jésus ici dit, « Je vais être avec vous, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Et c'est quelque chose qui, à travers les discussions que j'ai eues avec plusieurs personnes, c'est ça qui a fait que j'ai eu envie de faire cette petite étude-là que je peux partager un peu de façon simple. Ce matin, on va prendre une petite bulle ensemble et on va lire la parole. Comment Dieu nous préserve? Comment Dieu nous appelle à nous encourager? Et à travers tout ce que Jésus a donné à l'Église, que ce soit qu'est-ce qu'on fait quand on se rencontre, que ce soit pour soyez en communion. Hein? Un chrétien seul dans son coin, c'est pas facile. Hein? Dieu nous a donné la communion les uns les autres pour que, comme le fer aiguise le fer, comme certains d'entre nous ont le don spirituel d'être un papier sablé, on est ensemble pour grandir. Donc, je vous invite à tourner. En fait, j'aimerais vous dire, pour introduire les textes qu'on va lire, c'est normal pour nous d'avoir besoin les uns des autres. C'est normal de se questionner. Et là, je peux parler, j'aime voir qu'il y a plein de jeunes et il y a des moins jeunes, mais c'est normal, hein? On passe toutes des fois dans notre vie des moments où nos valeurs personnelles vont être défiées. Hein? Nos valeurs personnelles vont être challengées par le monde. Et on arrive tous à un moment donné à réaliser comment les valeurs chrétiennes qu'on trouve dans la parole de Dieu sont parfois, sur certaines facettes de notre vie, parce que c'est plus facile pour nous, différentes de ce qu'on vit. Et pour tous ceux et celles qui grandissent dans les foyers chrétiens, eh bien, on a les valeurs sans savoir pourquoi. Et quand on ne comprend pas pourquoi Dieu nous donne nous fait ses commandements, eh bien, on dirait que le commandement perd sa force. Est-ce que vous me suivez? Il y en a-t-il qui sont comme ça? Moi, j'aime ça, savoir, quand on me demande de faire quelque chose, pourquoi je le fais. Je suis peut-être tout seul, mais c'est quelque chose qui est important. Et je trouve ça bien. C'est normal dans notre vie. C'est normal, parfois, d'avoir des moments où on doit questionner le Seigneur. Et vous savez quoi? Ce que je trouve de plus en plus beau dans cette réalité-là, c'est que Dieu, ça ne le dérange pas quand on lui pose des questions. Dieu n'est pas nerveux. Dieu, ça ne le stresse pas qu'on dise « Seigneur, je ne comprends pas. » C'est normal. Et ensemble, j'aimerais qu'on prenne le temps d'ancrer cette réalité-là, comment Dieu appelle ceux qui croient en lui à être différents. Et à, ça devrait changer nos comportements. Et on devrait être capable de voir, à travers la parole de Dieu, quel est l'avantage de nous séparer du monde pour suivre Jésus. C'est quoi l'avantage qui est dans la vie chrétienne de se séparer du monde pour suivre Dieu? Et comme la Bible nous enseigne à nous protéger des fausses doctrines, à nous renforcer dans la vérité, à nous entourer de ceux qui nous font progresser, on va regarder ensemble les détails et un peu ce que Dieu nous appelle à faire. Donc, premier point, j'aimerais vous amener dans Deutéronome au chapitre 7. Deutéronome au chapitre 7. On va ancrer beaucoup, pour ce qui est de l'Ancien Testament, on va être dans Deutéronome plusieurs chapitres dans lesquels Dieu parle à travers le serviteur Moïse et il nous parle vraiment de comment est-ce qu'on est appelé à vivre notre réalité quand on vient au Seigneur. Comment le peuple de Dieu est appelé à être. Et on va être capable vraiment de voir qu'il y a le point d'une mise à part qui est personnelle. Okay? Parce qu'on aime, il y a beaucoup de gens, en fait, je ne sais pas si c'est le cas ici, à Notre-Dame-du-Nord, mais à Trois-Rivières, en ville, il y a beaucoup de gens qui voient l'idée de devenir chrétien comme être présent à l'Église. Et il y a cette espèce de combat qu'on doit avoir, puis ce n'est pas un combat, là, on ne se tape pas d'en face, mais cette idée-là de compréhension qu'on est appelé en tant qu'individu. Chacun d'entre nous est responsable de lui-même. Et l'Église, elle est là pour avoir cette communion qui facilite l'avancement de notre foi. Donc, Deutéronome, on va lire les 6 premiers versets. Et qui dit les choses suivantes. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hittiens, les Guiraziens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit et tu ne traiteras point d'alliance avec elles. Tu ne leur feras point grâce, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils, ils serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre. » Donc ici, on a vraiment deux facettes de base qui nous sont montrées ici. La première, elle est quand même profonde, mais pour nous, parfois, on a de la difficulté à réaliser. C'est on doit réaliser qu'on entre en alliance avec Dieu et que l'alliance qu'on a avec Dieu a proéminence, donc elle est plus importante que toutes les autres alliances. Et aussi que entrer en alliance pour l'Éternel, c'est très sérieux. Et au Québec, et aujourd'hui dans notre monde, avec tout ce qu'on peut voir sur Internet, entrer en alliance, est-ce que c'est vraiment important? Hein, aujourd'hui, on n'a pas la même profondeur de l'importance de notre parole, de l'importance de avec qui est-ce que je vais faire alliance. Hein, dans un monde où, à toutes les fois où vous ouvrez Internet, où vous allez sur Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, whatever, on vous demande le pouce bleu, on vous demande de suivre, on vous demande de vous abonner. Et je sais que pour plusieurs ici, je parle un langage inconnu, peut-être, mais pour la jeunesse, pour les générations qui sont là, ça perd un peu cette profondeur-là, mais dans la parole de Dieu, sachez qu'une alliance, c'est quelque chose de sérieux. On ne revient pas sur sa parole. Et Dieu est très, très, très intentionnel dans son alliance à lui, et il nous demande de faire pareil. Et une étape de base qu'il y a dans l'alliance, c'est vraiment une fidélité profonde. Et donc, il y a plusieurs points dans une alliance qui sont importants. Et ici, on a vraiment l'idée de dire, tu n'entreras point en alliance, tu ne marieras pas tes fils à leurs filles et tu donneras pas tes filles à leurs fils. Et là, on peut voir une espèce d'idée comment Dieu dit, la raison principale n'est pas parce que c'est des mauvaises personnes à la base. La raison que Dieu donne, c'est parce qu'ils vont te détourner de l'alliance avec Dieu. Et à quel point l'alliance est importante? Savez-vous, l'alliance qui a coûté le plus cher à Israël, au peuple, c'est l'alliance que Josué a faite avec ce peuple-là qui ont eu peur de l'Éternel, puis là, ils se sont déguisés. Hein? Ils ont menti, ils sont venus voir Josué avec des vêtements sales, avec du pain moisi, puis là, il n'y avait pas d'eau, puis là, ils sont venus voir Josué, puis ils ont dit, on est un peuple tout petit, on est opprimé, on a besoin de ton aide, et puis là, ils ont menti à Josué, puis là, Josué a fait alliance avec eux. Vous savez, c'est une histoire qu'on a au début, dans l'histoire de Josué, et la bataille qui a coûté le plus cher à Israël, c'est quand Josué est allé défendre le peuple qui est entré en alliance avec lui en mentant. Et Dieu lui a dit, tu vas aller défendre ce peuple-là parce que ta parole est plus importante que tout. L'alliance que tu as créée avec ces personnes-là, et tu dois la respecter. Et dans une alliance, et c'est quelque chose, je prends une petite parenthèse, dans une alliance, il y a toujours le plus fort qui entre en alliance avec le plus faible, et le plus fort est toujours responsable de la protection. Il est toujours responsable de s'occuper, de garder, de veiller. Et le plus faible est toujours appelé simplement à répondre à ce que l'autre personne... Et dans une alliance, il y a toujours un plus fort que l'autre qui établit les termes, et celui qui est plus faible accepte les termes. Tout le monde me suit? Tout le monde est d'accord avec ça? OK? C'est très rare qu'il y ait des alliances d'égal à égal. Et dans la parole de Dieu, notre alliance est avec Dieu. Donc, qui est le plus fort? Ben, on connaît la réponse rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous lisez la loi de l'Éternel, Dieu a donné vraiment des indicateurs qui parlent au cœur de dire, voici, je vous demande de faire ça parce que vous êtes en alliance avec moi. Parce que ça veut dire quelque chose pour l'Éternel. Et là, on est vraiment dans cette idée-là ici. Il dit, restez, à ce point-là, dans Deutéronome 7, on a les 12 tribus, on a des millions de personnes. Il dit, restez ensemble. Si vous mariez vos fils et vos filles, vous allez être détournés des choses. Et la deuxième façon qu'il nous donne ici, c'est quand on veut être vraiment, on veut suivre l'Éternel, on entre en alliance avec lui. Il faut faire un ménage prompt, efficace de ce qu'on peut avoir. Et voyez ce qu'il dit. Il dit, au contraire, voici comment vous agirez. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Et ici, j'aimerais vous amener, s'il y a toute cette liste-là, c'est qu'une statue, ce n'est pas une idole, ce n'est pas une image taillée. Comprenez? Et c'est... On entre dans la subtilité du langage. Voyez-vous, une statue, c'est quelque chose qui est grand. Donc, on a l'idée de l'adoration du peuple tous ensemble. Okay? Quand les gens se réunissent, il y a des statues et là, ils font le culte général. Ce serait nos rencontres d'église. Et là, après ça, on peut aller plus loin et dire, vous abattrez leurs idoles. Une idole, c'est personnel. C'est comme une statuette, quelque chose que tu as chez toi. C'est quelque chose que tu vas vivre vraiment chez toi, personnel. Et vous brûlerez au feu leurs images taillées. C'est encore une fois cette idée-là, une image taillée, c'est une représentation de quelque chose que tu espères. Et là, on entre, on ne fera pas un, je ne ferai pas un détail dans ça, mais on entre vraiment dans les idées que ces peuples-là pratiquaient une genre de magie, un genre de dualisme dans lequel, avec toutes ces choses-là qu'ils viennent nommer, ils espéraient être capables d'influencer les esprits et là, de gagner la faveur. Et si vous lisez un petit peu plus loin, deux livres plus loin, après Deutéronome, dans le livre des juges, vous voyez que le peuple, n'ayant pas respecté ces choses-là, ils sont rentrés dans un certain dualisme où l'adoration de l'Éternel était la religion du peuple. Donc, ils se rassemblaient ensemble pour adorer l'Éternel, mais chez eux, dans le confort de leur maison, ils avaient leurs images taillées, leurs idoles. Et quand on prend le temps d'étudier comme il faut, jusqu'à Élie, les gens dans leur maison vouaient un culte à Astarté. Parce que Dieu est grand, Dieu est bon, mais je ne prendrai pas de chance. C'était vraiment cette vision-là de dire, je ne prendrai pas de chance. Donc, ils louaient l'Éternel en nation, mais à cause qu'ils n'ont pas respecté ce point-là, ils ont fait un genre de syncrétisme, ce qui veut dire prendre ce que j'aime d'un peu partout, puis là, me faire ma propre religion. Ça n'arrive pas aujourd'hui, hein? Et on commence là. Et un point que j'aimerais souligner, si vous prenez le temps de lire le livre d'Esdras et de Néhémie, vous allez voir que dans l'exil, le peuple d'Israël n'a pas respecté cette chose-là, cette demande-là de l'Éternel, et le jugement a été sévère. Quand Néhémie est arrivé, on a un chapitre dans Esdras et un chapitre dans Néhémie qui dit simplement, bien, ils ont renvoyé leurs femmes, ils ont renvoyé leurs enfants, ils ont tout perdu, tout perdu, à cause qu'ils ont, désobéi. Donc, cette idée-là, on a deux points que je veux faire ressortir de ce texte-là. N'entrez pas en alliance de façon légère. Parce que Dieu prend les choses au sérieux. Et le deuxième point, faites un vrai ménage spirituel. Qu'est-ce qui va me détourner de l'Éternel? Et on doit faire un ménage, et c'est le côté qui nous revient. Dieu s'occupe de notre salut. Dieu s'occupe de nous réconforter par sa parole. Dieu s'occupe de nous fortifier. Et Dieu s'occupe de nous donner les timings. Si on est capable de l'écouter, on ne peut pas faire ça d'un coup, d'une frappe. On n'est pas capable, mais Dieu, dans sa patience, dans son amour, va nous donner cette proximité-là, cette capacité, petit peu par petit peu, à arriver à une obéissance complète. Tout le monde me suit? C'est la part qui nous est donnée. Dieu ne peut pas faire le ménage à notre place, jusqu'à ce qu'il se tanne puis qu'il le fasse, puis là, on est fâché. Et Dieu est conscient de ça. On est des créatures émotionnelles, on est tout un petit peu niaiseux, moi le premier. Dieu est patient. Mais on va tourner un petit peu plus loin, et cinq chapitres plus loin, Deutéronome 12, pour ancrer comme il faut. Et puis là, moi, j'ai vraiment trop de stock. Il faut que je finisse à quelle heure, Paul? Et il ne me donne pas de réponse. C'est bon, tu me feras signe. Fait qu'on est dans Deutéronome 12, et on va lire deux versets, les versets 29 à 31, donc trois versets. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de leur dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes sortes d'abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Ici, j'aimerais faire ressortir ce point-là. Une curiosité malsaine pour les choses du monde vont détourner notre cœur. Et là, vous savez, dans la parole de Dieu, parfois on a cette idée-là où on va aller nommer, et on est tous comme ça, là, on nomme la pire des choses. Et là, ici, l'Éternel, à travers Moïse, dit, ils vont jusqu'à brûler leurs enfants au feu. Et il y a des rois d'Israël qui l'ont fait. Et j'aimerais vous annoncer que ça ne commence pas par ça. Ce n'est pas la première introduction que tu as à suivre les faux dieux. Okay? Tu ne commences pas là. Et la réalité, c'est que dans la parole de Dieu, vous allez entendre deux noms constamment. Baal et Astarté. Okay? Si vous lisez l'Ancien Testament, ils sont constamment là. J'aimerais vous dire que, bon, Baal, c'est quelque chose d'assez public, mais la vraie chose qu'on a de la misère à comprendre en tant que chrétien, parfois, c'est le culte à Astarté. Parce que, vous comprenez, le culte à Astarté, c'était simplement une petite statuette que tu avais dans ta maison, que tu avais faite toi-même, okay? Qui avait une signification personnelle, et elle était au milieu de ta cuisine. C'était un culte pratiquement que les femmes faisaient, parce que c'est rare que les hommes soient dans la cuisine dans ce temps-là, mais c'était ta petite statuette qui prônait par-dessus ta maison. Et là, quand tu faisais ta cuisine, là, mettons, je vais rajouter un petit peu de sel. Avant d'en mettre dans ma bouffe, j'en donnais un petit peu à Astarté. Et ça devenait un automatisme. Ça devenait quelque chose de propre, de beau. Hein? Tu ne commençais pas par prendre ton bébé naissant que tu aimes puis le mettre sur les mains de la statuette en feu pour ne pas te faire maudire. Non, non, tu commences par ces petites choses-là. Et comment est-ce que tu fais pour arriver là? Tu as une curiosité. Tu poses des questions sur des choses qui ne sont pas de l'Éternel. Et combien de nous, en tant que chrétiens, on a cette capacité-là d'être curieux au point de se détourner de la simplicité qui est d'adorer l'Éternel. Il y a un seul Dieu. Dieu dit, fais pas d'image taillée, parce que tu vas passer plus de temps à faire une image parfaite, et puis là, tu vas être fier de ta job, et tu vas arrêter d'adorer l'Éternel, tu vas adorer ce que tu as créé. On est comme ça. On est tous un petit peu niaiseux, c'est pas difficile. Mais une curiosité malsaine, ça nous amène à oublier que Dieu a demandé des choses. Dieu veut être adoré d'une certaine façon et ce n'est pas la réalité où tu peux t'approcher comme tu veux de Dieu. Il y en a qui ont essayé dans l'Ancien Testament et ils n'ont pas duré longtemps. C'est cette idée-là de dire que Dieu a été clair. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas toujours facile, mais ce n'est pas compliqué. Comment Dieu veut qu'on s'approche de lui. Et dans une alliance, c'est le plus fort qui décide. Et comme on est en alliance avec Dieu, si dans mon alliance, je dis, ben moi, je vais le faire comme ça, pensez-vous que ça passe? Non. Vous avez des enfants, pour ceux qui en ont. Quand papa et maman disent, on fait ça comme ça, et que l'enfant décide que non, moi, je vais le faire comme ça, ça passe-tu? Ça devrait pas. Puis on est juste des pécheurs. Imaginez face à Dieu. Et à quel point c'est important, c'est parce que chercher à comprendre les alternatives, c'est s'imprégner de quelque chose qui n'honore pas Dieu. Il faut faire attention de quoi est-ce qu'on s'imprègne, de quoi est-ce que je me nourris. Ça va nommer, ça va faciliter ma marche. Donc, si je me nourris, afin de comprendre quelle est la différence entre Dieu et les choses du monde, je vais lire tous les autres livres, excepté la Bible, pour mieux comprendre, parce que maintenant, je connais la Bible. Bien, tôt ou tard, il y a quelque chose qui va faire du sens, quelque chose qui va être plus facile, il y a quelque chose qui va résonner avec mon cœur pécheur, qui va me détourner de la simplicité de mon Dieu et de son amour et de sa grâce. Et là, je vais tomber dans des barèmes, je vais pouvoir mettre des clôtures agréables à ma personne. Et on est tous pareils, depuis Genèse 3, le cœur de l'homme cherche à être son propre Dieu, cherche à établir par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Tout le monde me suit? Je vais vous donner le troisième rapidement. Deutéronome 18, on ne lira pas nécessairement au complet, mais il nous parle ici qu'on ne trouve chez toi, Deutéronome 18, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, etc. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Va, chasse ces nations devant toi, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Et ici, c'est quelque chose de vraiment intéressant et profond, parce que dans la nation d'Israël, on est au point de dire, est-ce qu'on va tolérer des comportements idolâtres au sein du peuple de Dieu? Est-ce qu'on va tolérer la curiosité? Et est-ce qu'on va prendre l'idée d'être mis à part et au lieu de se l'appliquer à soi, je vais la spiritualiser en mouvement d'église? Parce que être mis à part pour l'Éternel, c'est pas de sacrifier 2-3 heures le dimanche matin pour venir à l'église. Vous comprenez? C'est la réalité que toute ma vie, toutes mes actions et mes choix sont influencés par ma compréhension de qui est Dieu et de qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Ce n'est pas quelque chose qui est général. Et ça, ce qu'on vient de lire ce matin, c'est tout dans l'Ancien Testament, où Dieu appelait son peuple à être différent, séparé du monde, d'une manière drastique. Et ça a un but, ça a une raison. Vous savez, on peut aller maintenant dans le Nouveau Testament, parce que dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, Paul, à plusieurs reprises, on voit aussi l'apôtre Pierre qui fait la même chose, et l'auteur du livre des Hébreux nous enseigne que la sanctification dans l'Écriture nous appelle à vivre la même chose au niveau personnel. OK? Est-ce que la sanctification, c'est une affaire d'Église? Là, je vous pose des questions, moi, je suis de même. La sanctification, est-ce que c'est une affaire d'Église? On a des oui, on a des non? Alors, moi, je vous fais réfléchir un matin.
La sanctification de la personne doit avoir son effet sur l'Église. Ça commence avec la personne.
Je suis méchant, je vous ai donné une réponse qui est... La réponse, c'est les deux. Parce que la sanctification a plusieurs facettes. L'Église, ensemble, dans la communion fraternelle, on est appelé à s'encourager les uns les autres à la sanctification, à se mettre à part, à abandonner les choses du monde qui vont nous détourner ou détourner notre cœur de Dieu. En Église, par la communion fraternelle, par la lecture de la parole, par les chants, les prières et tout ça, on est appelé en Église à s'encourager. Mais moi, en tant qu'Église, en tant que personne de l'Église, même en tant que prédicateur ou pasteur ou peu importe, je n'ai pas la capacité de sanctifier aucun d'entre vous. C'est le Seigneur Jésus qui le fait, par la foi et par l'obéissance et par la soumission. Vous comprenez? Donc, c'est la job de l'Église ensemble de s'encourager vers ça. Mais c'est l'individu. C'est l'individu qui doit se soumettre à Dieu. Vous voyez? Donc, c'était une petite question méchante ce matin, qui ne se voulait pas méchante, mais c'est quand même intéressant de le voir et de voir la façon qu'on peut réfléchir. Et j'aimerais dire, la sanctification dans l'Écriture représente bien plus qu'une simple amélioration morale. OK? Elle constitue l'appel fondamental de Dieu pour ses enfants. Dieu nous convoque non pas à l'impureté, mais à la sanctification. Un mouvement qui engage la totalité de l'existence. Puisque celui qui appelle est saint, les croyants doivent refléter cette sainteté dans leur conduite entière en imitant le caractère divin lui-même. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui est général, mais qui engage la totalité de l'existence. Si vous allez dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7, Paul nous dit ceci. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » une transformation, un mouvement de l'être complet qui engage la totalité de notre existence. Donc, c'est une transformation qui s'exprime concrètement dans plusieurs domaines. Relations fraternelles, intégrité économique, qu'est-ce que je fais avec mon argent? Intégrité sexuelle, pureté sexuelle, ce que je fais avec mon corps, avec mes désirs, avec tout mon être, devrait être imprégné de cette idée d'être sanctifié, mis à part, différent et de plaire à Dieu. J'engage mon être au complet, avec tous ses désirs, ses forces et ses faiblesses. Et c'est la raison pour laquelle Dieu demande qu'on soit saint, qu'on soit spécial. C'est parce qu'on reflète le caractère divin de Dieu. Et si je prends à la légère cette idée-là, que j'appelle l'idée de dire « je veux mon ticket pour pas aller au ciel », est-ce que l'Évangile est un ticket pour pas aller au ciel? On peut le voir comme ça. Parce que la parole de Dieu est claire. Celui qui confesse le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et ça semble ne pas indiquer grand changement. Et là, on aime citer, moi le premier, le bandit sur la croix, qui n'a absolument rien fait, qui a simplement reconnu que Jésus était le Sauveur, le Seigneur, qui était le Fils de Dieu. Et Jésus lui a dit, « Certainement, ce soir, tu seras avec moi au paradis. » Mais ce n'est pas la norme. Le chrétien donne sa vie à Dieu. Et Paul nous dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et ce qu'il y a de génial, c'est que la parole de Dieu nous donne plein d'exemples. Jésus enseigne, « Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. » Est-ce que la branche peut produire un fruit par elle-même? Non. Elle a besoin d'être accrochée à l'arbre. Et est-ce que la branche accrochée à l'arbre peut produire autre chose que ce pourquoi elle a été créée? Ben non. Vous savez, il y a des... Mon père a déjà acheté un arbre et j'aime cette image. C'était un arbre, je ne sais pas comment l'appeler, parce que c'était un cep sur lequel il y avait des branches de pommier, des branches de poirier et des branches de prune. Et savez-vous quoi? La branche du prunier faisait des prunes. La branche du poirier faisait des poires et la branche de pommier faisait des pommes. Mais tout ne pouvait rien produire s'il n'était pas attaché au cep, à l'arbre. On est d'accord? Maintenant, on a cette image-là de dire que on est appelé à être sanctifié et on reconnaît la sanctification par les fruits qui sont portés. On est greffé à l'arbre qui est le Seigneur Jésus. On entre en alliance avec lui et cette alliance-là, elle est profonde, elle est spéciale. Elle vient transformer tout notre être. Et les péchés qui nous sont faciles, qui sont spécifiques à l'individu, mes péchés ne sont pas vos péchés. OK? Je suis un colérique, vous n'êtes pas tous des colériques. Il y en a qui sont des mélancoliques, il y a des gens qui sont... Et là, on peut nommer tout ce qu'on veut. OK? Et ce qui est facile à nous va m'amener dans un chemin de sanctification qui va être différent de mon voisin. Mais j'ai besoin de mon voisin. Parce que peut-être que pour moi, tel comportement est acceptable. Parce que dans mes valeurs, dans ma personne, dans toute ma vie, j'ai été élevé de façon normale. Je vous donne un exemple de ma vie. Moi, je parle fort dans la vie. OK? Et si on argumente sur certains points, ça se peut que je parle très fort. Non, mais c'est quand même une réalité. On est capable de se parler, mais on est capable de se parler fort puis de ne pas le prendre personnel. Et j'ai marié mon épouse qui, elle, vit dans une famille où les gens ne parlent pas fort. Et là, elle m'a dit la chose suivante, pas plus tard qu'il y a une semaine. On était dans une... On parlait, moi et mes parents, on parlait de choses un peu politiques, de la parole de Dieu. Et puis là, on parlait de plein de choses. Et puis là, Sarah a dit, pas vous connaître, là, vous étiez en train de vous chicaner. Ça parle fort. Puis là, ton point, pour qu'il soit entendu, il faut que tu le dises plus fort que l'autre. Puis on avait du plaisir. C'était moi, en tout cas, j'avais du plaisir. Et on discutait et tout. Puis là, elle dit, c'est intense, pour elle, pas vous connaître. Puis ça fait plusieurs années qu'on est mariés. Puis elle me le dit encore, elle dit, vous parlez fort. Donc, pour moi, c'est une norme. Et pour elle, c'est une expression colérique qui est littéralement vraie. Mais pour moi, c'est impossible que je sois conscient de ça. J'ai grandi les deux pieds dedans. Et là, on arrive dans l'Église. Une sanctification. Et sachez-le, c'est vraiment désagréable de se rendre compte que notre façon d'être, ma personne, au complet, est péché. Pas parce que je suis pire que le voisin, parce que c'est facile à voir à la lumière de mon frère, de ma sœur, de mon épouse, qui connaît les moindres coins de ma vie, de mon cœur, que, ben oui, j'ai besoin de l'Éternel pour même des petites choses. Et là, on vient, dans cet appel-là à la sanctification, prendre... s'abstenir de l'impudicité, posséder son corps, vivre une sexualité saine, vivre l'intégrité économique, vivre des relations saines, je représente le caractère divin et j'y engage la totalité de mon existence et de mon âme. C'est difficile. Et s'il y en a qui sont intéressés, dans 2 Corinthiens 6, on a cette idée-là, comme l'Éternel l'a demandé par Moïse dans Deutéronome, on a cette idée-là de ne pas, en tant que chrétien, entrer en alliance du mariage avec des non-croyants. Parce qu'une des richesses qui est d'être en communion, d'être marié en alliance profonde avec un autre croyant, c'est qu'on peut prier ensemble. C'est qu'on peut parler du Seigneur ensemble. C'est que je suis conscient que ben, la personne avec qui je suis, ben, elle va accepter qu'elle est pécheur, qu'elle a des faiblesses, que moi j'en ai, et on va pouvoir exercer le pardon qui vient de Dieu ensemble. Et c'est la raison profonde pour laquelle Paul ici dit, ne vous mettez pas dans 2 Corinthiens 6, 14 jusqu'à 7, 1, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Le matin, en tant que chrétien, des fois ma femme elle a des temps avec le Seigneur qui sont exceptionnels, et puis là, elle veut me le partager, puis moi, je suis bougonneux. Puis là, je suis comme, ah, ouais, c'est bien. C'est pas fort. Mais imaginez si j'étais un non-chrétien. Elle pourrait même pas me partager ça. Non. Ah, oh, toi puis ta Bible, là. Je peux être bien fin, je peux être bien gentil, je peux être super exceptionnel. Mais on pourra pas partager la chose la plus importante qu'on a. Donc, c'est clin d'œil, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Si la parole de Dieu, si l'Évangile a touché votre cœur, si Dieu est important pour vous et que vous êtes encore en train de faire un choix, clin d'œil, les ados, ne vous mettez pas avec quelqu'un qui va se foutre de Dieu. Trouvez un partenaire, une partenaire qui va être attaché à Dieu. Et j'aimerais vous dire que dans le même texte, Paul va un petit peu plus loin, il dit, c'est pourquoi Dieu dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Et regardez ici le verset 18, 2 Corinthiens 6, 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, mes bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, l'enjeu dépasse les préoccupations terrestres parce que sans la sanctification, nous dit Hébreux 12, 14, personne ne verra le Seigneur. La sanctification devient donc la condition de la communion divine. Sans sanctification, je vais perdre la communion. Je ne perds pas mon salut. Je ne perds pas l'esprit. Mais ailleurs, Paul appelle ça éteindre l'esprit. Il appelle ça étouffer l'esprit. Il appelle ça être sourd à l'esprit. Et combien de croyants sont dans une situation X, Y, et là, le péché, la danse qu'on a constante avec le péché, elle est là, là. Je suis en train de danser un flamingo intense, je sue ma vie à essayer de ne pas suivre les pas du péché et de suivre la danse que Dieu me demande. Et là, on dit, et en ville, en tout cas, il y en a beaucoup, qui me disent, je me sens stagnant. J'ai l'impression que j'avance plus. Je suis arrivé à un point dans ma vie où, je sais pas, je pense que je suis arrivé au bout. Et là, tu poses des questions, et là, tu vois que il y a des luttes. Et on a tous des luttes. Donc, quel est l'enjeu profond ici? C'est de pouvoir vivre cette relation-là, père-fils ou père-fille avec l'Éternel. Que si je suis à négliger ma sanctification par plaisir personnel, par désintérêt total, parce que c'est difficile, je brise la communion. Dans le fond, je m'éloigne de mon Père céleste. J'asservis mes membres au péché qui va constamment aboutir à l'iniquité. Et je ne cherche pas la justice. Donc, la sanctification, se mettre à part, représente un renversement radical. Elle transforme, je m'en vais d'un côté, et l'orientation de ma vie, de mon existence, change entièrement. Je substitue ma servitude au péché, et à la place, j'y mets une liberté orientée vers la ressemblance divine. J'ai la capacité, dans ma lutte, à m'éloigner du péché, à ressembler à Jésus. Et là, j'aimerais le redire. J'ai la capacité dans ma vie de sanctification à ressembler à Jésus. Et Jésus est l'empreinte, la personnification complète de toutes les qualités divines. Je deviens enfant de Dieu. Et en devenant un enfant de Dieu, je veux refléter, je veux honorer, je veux me soumettre à mon Père céleste. J'entre dans une communion, une alliance profonde avec le Dieu Tout-Puissant. J'ai la capacité, à travers le Seigneur Jésus, d'abandonner le péché et de vivre une vraie liberté. Comme nous dit l'Épître aux Hébreux, approchons-nous donc avec une pleine assurance du trône de la grâce. Et ça, j'y ai accès parce que Jésus, après le chapitre 17 qu'on a vu aujourd'hui, qu'on a lu comme introduction, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. Je les envoie comme des brebis au milieu des loups afin qu'ils annoncent qui je suis. Et là, dans ma sanctification, je vais avoir un appel à être fidèle. Je vais avoir un appel à vraiment pouvoir suivre le Seigneur. Je vais avoir un appel à m'accrocher à lui parce que je deviens littéralement une extension de la main de Dieu. Une extension qui peut parler, toucher. Comment entendront-ils si personne ne prêche? Comment seront-ils sauvés par la prédication? Comment entendront-ils si personne ne prêche? Ils vont envoyer des gens. Voici, la moisson est blanche. Priez pour des ouvriers. Priez pour des gens. Et la sanctification du chrétien nous amène à aimer ce que Dieu aime, ce qui est contraire à notre nature. Ça nous amène à rejeter ce que Dieu rejetterait. Et ça nous amène à accepter les difficultés qui vont venir avec. Ça nous amène à accepter le rejet. Ça nous amène à accepter les défis. Vous savez, je connais des personnes qui ont joué un petit peu avec les mots pour de l'argent. Ils sont chrétiens. Mais pour sauver une couple de mille à gauche et à droite,
ont accepté de vivre avec le compromis.
Et aujourd'hui, ils le regrettent, mais
ils ont sauvé 5, 10, 15 000.
Et ça vient d'une mentalité. Pour survivre, est-ce que je vais survivre comme le monde? Ou est-ce que je vais faire confiance à Dieu? Et peut-être perdre ma business, peut-être avoir moins de contrats, peut-être ça va me coûter plus cher, peut-être va falloir que je paye des taxes, peut-être que whatever. Mais en connaissant Jésus, et on va faire un blitz, parce que je ne sais pas à quelle heure il faut que je finisse, mais dans la parole de Dieu, c'est évident, il y a une chose qui peut sauver le fait que ce matin, je parle de quelque chose qui est peut-être difficile. C'est le fait qu'à travers notre salut, la clé pour la sanctification, c'est d'être sensible à l'Esprit-Saint. Et donc, Dieu, à notre salut, nous a donné l'Esprit, nous scelle et nous garde par cet Esprit-Saint-là. Et l'Esprit-Saint trouve sa force quand on lit la parole de Dieu. L'Esprit-Saint ne trouve pas sa force dans, malheureusement, ne trouve pas sa force dans la communion fraternelle. Non, il va utiliser la communion fraternelle. L'Esprit-Saint trouve sa force quand je lis la parole de Dieu et je prie. Que ce soit seul, que ce soit en groupe, que ce soit dans ma proximité avec Dieu, c'est là que je donne la capacité à l'Esprit de parler à mon cœur. Donc, si je suis toujours dans l'action, parce que je suis une personne d'action, je dois apprendre à arrêter afin d'aller écouter l'Esprit-Saint. Si je suis une personne qui constamment lit la parole de Dieu et prie, et puis là, je ne fais rien, on fait ce qu'on appelle de l'embonpoint spirituel. Avez-vous déjà vu ça? Un chrétien qui a tellement mangé de steak, puis de crème forte, puis de tout, là, il s'est nourri de la richesse de Dieu, mais là, il n'a tellement pas mis en action les choses qu'il est rendu gros. Puis là, après 2 minutes de course, parce qu'il est tellement rendu riche dans toute sa connaissance, puis il ne l'a pas mis à l'œuvre. Et là, on parle d'une sanctification. On parle d'y aller. Et l'Esprit, ce qu'il fait à la base, il va nous aider, comme dit Romains 12, 2, à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre Jean nous dit la même chose dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. L'Esprit nous amène à faire une différence. Voici comment Dieu voit le monde. Voici ce qui est important pour Dieu. Savez-vous ce qui est important pour l'Éternel? Son Fils Jésus qui a plus de valeur que toutes nous autres et que tous nos péchés et que tout ce qui peut être fait dans le monde. Jésus a plus de valeur que toutes ces choses-là. Savez-vous ce qui est important pour le Seigneur aussi? Ses enfants. Chacun d'entre nous qui a donné notre vie au Seigneur, on est important aux yeux de Dieu. On est créé à l'image de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et on est important pour Dieu. Savez-vous aussi ce qui est important pour le Seigneur? Ses enfants qui ne sont pas encore venus à lui. Et on est appelé par notre sanctification à être attirant pour le monde. Pas, ah, toi, t'es. C'est quoi donc ton affaire? Non, non, ça doit être évident qu'on est chrétien. Parce que la Bible nous dit que l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Et donc, si quelqu'un entre, un non-croyant, il entre ici et il comprend absolument tout ce qu'on fait, là, il faut se poser des questions. Parce que Dieu, dans sa parole, dit, l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. C'est par l'Esprit que ça lui est révélé. C'est par l'abandon du péché, l'abandon de l'orgueil, s'abandonner à Jésus, d'être pleinement conscient d'abandonner notre vie, le fardeau au pied de la croix, nos péchés au pied de la croix. Et là, ça nous dit que l'Esprit-Saint va vraiment lui permettre de comprendre. Et là, petit peu par petit peu, dans notre marche chrétienne, on comprend, on accepte, on change, on fait du ménage. Et là, on devient de plus en plus semblable à Jésus. Et là, ça, c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Je deviens semblable à Dieu. J'ai accès pleinement au Père. Les Israélites tueraient pour avoir accès à Dieu. Moi, j'ai accès à Dieu. N'importe quand, n'importe où. Je peux tomber à genoux parce que par le Fils, je suis constamment prêt, saint, agréable à Dieu, à travers l'œuvre de Jésus pour ma vie. N'importe quand, je peux aller confesser mes péchés à Dieu. N'importe quand, je peux avoir l'Esprit Saint qui va me diriger. Pourquoi? Parce que j'ai son Fils qui est mort pour moi, qui m'a donné l'Esprit, qui me dirige, et je veux être agréable à Dieu. C'est une lutte. Tous les jours, c'est une lutte de ne pas écouter mon cœur pécheur. Je dois le soumettre. Je dois y faire une double savate, une clé de bras, le mettre à terre, lui donner 3-4 taloches. Savez-vous quoi? Il se relève, ça ne prend pas 5 minutes. C'est ma lutte. C'est notre lutte. Et elle se gagne par l'Esprit. Elle se gagne par Dieu. Donc, pourquoi le Seigneur Jésus a prié dans Jean 17? Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. Je termine avec ça. Jésus nous appelle, nous, l'Église, par notre sanctification, à être un témoignage profond de qui il est. Savez-vous que les anges feraient un meilleur job que nous autres pour annoncer l'Évangile? Mais ce n'est pas à eux de le faire. Ils ne sont pas en alliance avec Dieu comme nous. Ils n'ont pas les mêmes espoirs. Je peux partager l'espoir et la réalité qu'un jour, je vais être avec Jésus. Je vais être son enfant et je vais pouvoir l'adorer en étant pleinement régénéré, pleinement libre de le suivre sans péché. Et sans l'Esprit de Dieu qui travaille en nous, c'est impossible pour le croyant d'y arriver. Sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible de plaire à Dieu. Et je peux vous laisser simplement avec cette, comment Paul le met en pratique dans Philippiens 3, versets 7 à 14. « Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Voici, j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Est-ce que Jésus a la même valeur à mes yeux qu'il avait de la valeur pour Dieu, pour Paul et pour les disciples? Est-ce qu'il est le centre de ma vie? Est-ce qu'il est l'intérêt principal quand je me lève le matin? Est-ce qu'il est mon intérêt principal quand je me couche le soir, quand j'éduque mes enfants, quand je vais au centre d'achat, quand je joue au soccer, quand quelqu'un m'envoie promener? Quand je me fais couper en char, name it. Est-ce que Dieu est mon intérêt premier? Et je peux le glorifier à travers ma vie en faisant de lui mon délice, la chose la plus importante, celui que j'aime par-dessus tout, et je peux lui faire confiance. Donc, vous savez, l'Ancien Testament nous parle de se mettre à part, de ne pas briser l'alliance, que notre parole est importante, que Dieu voit notre parole comme importante et notre engagement à lui comme étant ultime. Et Dieu ne brise pas sa parole. Brisons pas la nôtre. Dans le Nouveau Testament, Paul nous enseigne un peu la même chose. Se détourner du péché, le laisser nous travailler, le laisser nous sanctifier
Et on voit la même chose que dans l'Ancien Testament, ne pas entrer en alliance d'une façon désordonnée, lui donner la première place et même d'abandonner les choses du monde. Le laisser par son esprit nous diriger afin qu'on puisse être des chrétiens efficaces pour l'appel qu'il a sur nos vies. Tout le monde me suit? Je ne vous ai pas perdu? Les enfants ne dorment pas? Mais on va prier afin de remettre ce qu'on vient de partager ensemble dans les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie ce matin, je te remercie pour ces textes. Ces textes, Seigneur, qui nous parlent un peu de notre responsabilité personnelle à chercher à te ressembler de plus en plus. Et Seigneur, on est conscient que, comme l'a exprimé ton apôtre Paul, Seigneur, qui me délivrera de ce corps de mort? Je ne fais pas les choses que je veux et je fais les choses que je ne veux pas. Seigneur, on a tellement besoin de toi. Mais ta grâce surpasse toute chose. Ta grâce est bonne. Tu nous as lavés par ton sacrifice, Seigneur. Tu as tout pris. Tu as tout payé. Seigneur, tu nous appelles à pouvoir te ressembler. Quelle grâce! Quelle grâce non méritée! Seigneur, je te prie ce matin de parler à nos cœurs, que tous et chacun, Seigneur, tu puisses mettre en évidence les endroits où on a besoin de toi encore plus. Seigneur, peut-être qu'il y a des choses que je garde, peut-être que j'ai des rancunes, peut-être que j'ai des péchés. Seigneur, on a besoin de toi pour nous éclairer. Seigneur, on ne veut pas prendre les choses à la légère. On veut vraiment chercher ta face, te faire confiance. Seigneur, tu es bon. On veut se le rappeler. Tu veux notre sanctification. Tu veux prendre soin de nous. Et Seigneur Dieu, tu le fais. Aide-nous à être attentifs, fidèles à ton Saint-Esprit. Dirige-nous chacun d'entre nous. Seigneur, on a une pensée spéciale pour le camp qui commence, plein de jeunes qui vont venir qui ne te connaissent pas. Donne-nous un cœur pour eux. Aide-nous à prier pour eux. Que ton Esprit Saint puisse travailler, sauver, régénérer, parler, plus fort que chacun d'entre nous. Aide-nous à être des témoignages, soit avec les moniteurs, soit avec les staffs. Seigneur, que ce camp te glorifie. Que chacun d'entre nous en soit attentif. Dirige-nous, Seigneur. Merci pour ce temps, merci pour cette Église. Bénis-la. Parle à nos cœurs encore, et cette journée, on te la donne dans le nom et pour la gloire de Jésus. Amen.